France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de France Maghreb 2 pour votre grand forum qui vous emmène et vous conduit jusque 18h avec le sujet à la une. Le ministère de l'Intérieur annonce un dispositif extrêmement important le soir de la finale de la Coupe d'Afrique qui opposera, vous le savez, l'Algérie au Sénégal. Comprenez-vous cette mesure? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. On en parlera avec Faïza Ben Mohamed et Maître Besma Maghrebi qui sera avec nous tout à l'heure, dans quelques minutes, sur France Maghreb 2. Petite escale également par un triste anniversaire aujourd'hui, puisque notre chroniqueur Hicham Terrak a perdu son papa. Son papa a disparu, il était atteint d'Alzheimer. Il a disparu il y a 4 ans, jour pour jour. On ne l'a jusqu'à ce jour jamais retrouvé. Et pourtant, les démarches ont été effectuées, évidemment de la part de la famille. Eh bien, rien pour l'instant, aucun résultat. Il est temps évidemment qu'on se bouge parce que cette famille a besoin de savoir, a besoin de connaître la vérité pour qu'elle puisse évidemment faire son deuil. On en reparle tout à l'heure. C'est parti pour votre LGF qui vous emmène et vous conduit tranquillement jusque 18h sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum en ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. J'espère que vous allez tous bien en pleine forme jusque 18h comme chaque jour, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité. Pour nous rejoindre, évidemment, je vous expliquerai tout simplement dans un instant comment cela va se passer. C'est très simple, vous en avez évidemment l'habitude. C'est au 01 40 33 9000 que ça se passe pour nous appeler, pour prendre part à la discussion que nous allons avoir, entamée avec nos deux chroniqueuses aujourd'hui, puisqu'elles sont deux. Je vous propose d'en vous en présenter déjà la première. Vous la connaissez, Maître Maghrebi, Besma Maghrebi. Bonjour Maître.
Bonjour, comment ça va Christophe? Bonjour à tous les auditeurs.
Ravi de te retrouver, ça fait longtemps.
Ah mais je suis ravi également d'être là aujourd'hui. Tu sais que c'est toujours un plaisir pour moi de venir au LGF.
Eh ben j'imagine, ouais. Alors, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet tout à l'heure de l'affaire de notre ami et chroniqueur, Monsieur Hicham Terrak. Qui, pour rappeler un petit peu l'histoire de Hicham, il y a 4 ans, jour pour jour, il a perdu son papa. Quand je dis perdu son papa, c'est que son papa en fait a disparu, il est atteint d'Alzheimer. Et son papa donc a disparu, n'est jamais revenu, ils l'ont jamais retrouvé. Malgré les recherches qu'ils ont pu faire appel aux services compétents. Et cela n'a jamais été possible de le retrouver. Ça fait 4 ans, jour pour jour. On en reparlera avec lui tout à l'heure, on l'aura au téléphone pour qu'il puisse nous expliquer évidemment cet énorme souci, évidemment, parce que ils peuvent pas faire le deuil, bien entendu, puisqu'ils ne savent pas où il est, ce qu'il est devenu. Et on en parlera donc tout à l'heure avec lui. Et je pense qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais qui sont pas assez malheureusement efficaces. Et ce qui est très étonnant au-delà de tout cela, Maître Maghrebi, c'est que dans ce pays quand même qui s'appelle la France, on soit pas capable de retrouver une personne âgée qui est disparue, qui est malade. Ça paraît quand même assez hallucinant. Et pourtant, c'est visiblement ce qui se passe pour cette famille qui n'arrive pas à faire leur deuil forcément, parce qu'ils veulent savoir et avoir des nouvelles. Donc tout à l'heure, on en reparlera. Pour l'heure, c'est le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur qui annonce un dispositif exceptionnel ce vendredi à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera, vous le savez, l'Algérie au Sénégal. Parce que visiblement il y a eu quelques soucis auparavant, quelques débordements, des arrestations, et ils ont une certaine crainte de ce qui risque de se passer, à tel point d'ailleurs que certaines personnes ont demandé la fermeture des Champs-Élysées, ce qui a été refusé d'ailleurs par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, demandé évidemment par vous savez qui, à savoir le Front National et tous ces groupes de droite. Est-ce que vous comprenez ce dispositif mis en place donc vendredi soir, un dispositif donc dit exceptionnel à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, Besma?
Alors moi personnellement je le comprends et j'aurais même été surprise qu'il n'en soit pas autrement dès lors qu'on sait qu'il y a un risque de d'attroupement, dans le sens où dès que plusieurs personnes sont amenées à se réunir dans un endroit, on a ce qu'on appelle le risque qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Le risque, ça signifie pas qu'il va y avoir des dérives ou qu'il va se passer quelque chose de grave. Ça signifie juste qu'on a un risque à ce qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Et dès lors, normalement, l'État a l'obligation de mettre en œuvre justement un dispositif pour essayer de limiter les dégâts ou d'encadrer si jamais ce trouble arrive. Là, on sait très bien que si jamais il y a une victoire de l'Algérie, et je le souhaite de tout cœur, il y a un risque à ce que les supporters algériens descendent dans la rue et manifestent leur joie, leur bonheur. Et qu'on se retrouve donc face à un attroupement, à une émeute, à un groupe de plusieurs personnes qui seront là pour fêter une victoire qui peut avoir des conséquences sur l'ordre public.
Alors, très bien, on va en parler avec vous évidemment. On vous pose la question et vous y répondez bien sûr au 01 40 33 9000. Bien entendu. Alors, je crois qu'on est avec Faïza, enfin Faïza Ben Mohamed. Bonjour Faïza.
Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors, il y a Besma Maghrebi qui est avec nous, Maître Maghrebi.
Bonjour Faïza.
Salut Besma.
Alors, Besma, effectivement, avec Besma, nous parlions, Faïza, je m'y perds, hein, tu vois, de ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur. Il prévoit donc d'encadrer de manière assez conséquente la soirée de vendredi. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite information très intéressante, c'est que le match sera diffusé en clair vendredi soir, sur la 10, la chaîne TMC. C'est un accord qui a été trouvé à l'initiative d'ailleurs de Beansport, qui a sous-licencié en fait les droits à TF1, au groupe TF1, et donc le groupe TF1 choisit de prendre TMC comme chaîne diffuseur de ce match. Le match aura lieu à 21h ce vendredi soir, cette finale attendue par les supporters sénégalais mais aussi algériens. Est-ce que tu comprends, Faïza, ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur?
Non, je pense qu'il y a... Il y a une espèce de d'hystérie généralisée qui règne sur ces derniers jours en ce qui concerne les pseudo scènes de violence qui auraient eu et dont se seraient rendus coupables les supporters algériens. Moi, je suis pas certaine que les agitations qu'on a pu voir ce week-end, elles soient différentes de ce qu'on a pu voir pendant la Coupe du Monde de l'année dernière ou à l'Euro en 2016. Je comprends pas trop pourquoi aujourd'hui, médiatiquement, il y a une espèce de cristallisation sur les célébrations algériennes, en tout cas.
Alors, Besma, c'est vrai que les violences qu'on a vues particulièrement dimanche n'étaient pas forcément au soir, enfin, juste après la victoire de l'équipe d'Algérie, c'était plutôt l'après-midi, les Gilets jaunes. Ça a été encore un carnage dimanche après-midi.
Mais en ce qui concerne les Gilets jaunes, là encore, on a un dispositif de sécurité qui est mis en place pour encadrer. Donc, le dispositif de sécurité qui va être mis en place ce jour-là, est-ce qu'il est destiné directement aux supporters algériens, où il est destiné aux troubles à l'ordre public qui peut avoir lieu ce jour-là?
Oui, Faïza.
Alors, en fait, il y a eu, si tu veux, pour le soir du match, pour les quarts de finale, la préfecture de police de Paris avait prévu un dispositif qui contenait 600 fonctionnaires de police. Le soir de la demi-finale, ils ont prévu un dispositif qui était de 2500 membres des forces de l'ordre pour encadrer les supporters algériens. Après c'était le soir du 14 juillet, donc après il faut pas non plus qu'ils commencent à polariser l'attention uniquement sur les Algériens, parce que
le 14 juillet, on sait,
c'est ça. En fait,
moi, énormément de violence dans l'après-midi, et on sait que pendant tout l'hiver, par exemple, les manifestations des Gilets jaunes, elles ont conduit à des scènes de violence, à des scènes de dégradation, à des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants uniquement à la tombée de la nuit. Aujourd'hui, un 14 juillet, la tombée de la nuit, c'est 21h30, 22h. Donc après les matchs, ça peut même continuer, et ça peut ne pas être le fait de supporters de foot, hein, tout simplement. Et le dispositif donc du 14 juillet, il est reconduit pour ce vendredi. Donc il sera identique, de 2500 membres des forces de l'ordre. Est-ce que c'est trop? Moi, je pense que c'est trop. Est-ce que le ministère de l'Intérieur communique trop là-dessus? Je pense qu'il communique beaucoup trop.
Voilà, moi, je pense que c'est là le problème. Il est plus sur la communication que sur le fait de mettre en place le dispositif en lui-même. Parce que...
Exactement.
Mettre en place le dispositif, c'est, je pense que c'est nécessaire d'encadrer. On peut pas non plus ne pas poser un cadre. Après, comment ils posent le cadre et comment ils mettent ça en place, c'est là où on peut dire c'est trop ou pas trop. Mais la communication, elle est excessive. Là, je suis d'accord.
En fait, la communication, elle est faite pour discréditer, rassurer, ou pour faire taire, ou pour répondre en tout cas pour reprendre une phrase, pour comment il disait la question sur Benzema, c'était Didier Deschamps a cédé à une partie de raciste de la France.
C'est ce que j'ai dit.
Et
aussi
finalement, pour... c'est exactement ce qui se passe là avec le dispositif de sécurité. T'as une partie raciste de la France.
Et c'est pour nourrir justement cette partie raciste là qui communique autant.
Exactement.
Moi, c'est comme ça que je le ressens.
Oui, c'est ça, mais bon, franchement, je ne crois pas qu'on puisse le ressentir autrement. Il y a eu un certain nombre de déclarations émanant de responsables politiques d'extrême droite essentiellement, mais après, il n'y a pas eu que l'extrême droite, il y a eu aussi des gens même de la gauche hein, qui s'étonnaient de voir des supporters algériens avec des drapeaux. Je ne les ai pas entendus, moi, se révolter quand le Portugal a gagné l'Euro en 2016, sachant que la diaspora portugaise est la plus importante de France, et donc il y a eu des célébrations immenses dans toute la France quand en plus c'était Portugal-France.
Oui, en plus, donc, en plus on s'en souvient.
Voilà, on est en France et on s'est pas étonné que les Portugais fêtent en fait la défaite de la France en quelque sorte. En réalité, la diaspora algérienne est la deuxième en France en quantité. C'est la deuxième de France. Il y a plus de 2 millions et demi de ressortissants algériens binationaux, ou en tout cas issus de l'immigration algérienne sur le territoire national. C'est normal que les victoires ou les sorts de match mènent à des célébrations comme on a vu ailleurs. Après, il faut rappeler aussi une chose. L'année dernière, pendant la Coupe du Monde, il y a eu deux morts et plus de 250 blessés le soir de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a eu des flashs? Est-ce qu'on a eu les supporters français? Ils savent pas se tenir ici, ça, machin. On a eu encore ce 14 juillet des policiers qui ont arraché des drapeaux algériens à des supporters, des policiers qui leur ont demandé de retirer leur maillot ou de refermer leur veste de jogging pour pas qu'on voit les maillots. Il y a quand même une vraie hystérie collective là-dessus. Et donc, on répond à la partie raciste de la France qui s'étonne que le supporter algérien soit aussi visible, parce que ça, c'est encore un problème de visibilité. Ça, c'est encore des nostalgiques de l'Algérie française qui ne supportent pas que finalement, il y ait des célébrations algériennes ici en France, qu'on puisse avoir une double culture ou même une simple culture pour ceux qui sont pas français. Ils supportent pas ça. En fait, on nous demande en réalité de choisir.
Vous êtes 49% à penser, à comprendre en tout cas ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur pour le soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera l'Algérie au Sénégal. Ce vendredi soir, match qui débutera à 21h, donc si tout va bien et si le match va à son terme sans aller en prolongation et au tir au but, ça devrait se finir aux alentours de 22h45-23h. Donc les gens devraient aller festoyer sur les Champs-Élysées, évidemment, en cas de victoire, ce qu'on souhaite, bien entendu. Eh bien, ça devrait se dérouler autour de 23h30 minuit. Et d'ailleurs, Laurent Nunez, qui ce matin s'est exprimé, a dit il n'est pas question de fermer les Champs-Élysées, parce que ça avait été demandé par une partie des politiques français de fermer carrément les Champs-Élysées pour éviter justement que les supporters algériens puissent venir. Et cette histoire de drapeau effectivement enlevé, on a vu les images, les vidéos existent, où les policiers carrément arrachent des maillots, enfin arrachent des drapeaux, ça s'est passé il me semble dans le Nord. Moi personnellement j'ai fait à titre personnel l'expérience d'aller dans un quartier dit populaire, du côté des Tarterets à Corbeil-Essonne, mais franchement on a du mal à imaginer, c'est même impossible de voir que des jeunes qui sont là et qui festoient, que ce soit d'ailleurs des jeunes ou des plus âgés, tous ensemble communient autour de cette victoire. Et ils n'ont en aucun moment, l'envie d'aller casser. Alors peut-être des petites choses justement à signaler, genre des imprudences, voilà, des hommes qui sont sur le toit de la voiture en roulant, c'est extrêmement dangereux, etc. Et il suffit finalement que les policiers soient là pour un petit peu ramener de l'ordre et que ça y est, ça s'envenime parce qu'on connaît la délicatesse des policiers lorsqu'ils s'adressent aux jeunes, bien entendu. Et que voilà comment on démarre finalement des problèmes dans ce type de célébration. Mais sinon, à part ça, mais il faut vraiment le voir. C'est magnifique. Je veux dire, c'était un feu d'artifice dimanche soir là où j'étais. Vraiment, c'était ça klaxonnait, ça chantait, et tous se disaient voilà, c'est notre 14 juillet à nous. Voilà, c'était formidable. C'était voilà. On a du mal à imaginer quand même qu'on puisse voir des scènes de la sorte. Et moi, j'en suis à penser, et j'en suis pas le seul, je pense, à imaginer que ces scènes de casse qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées émanent de gens qui s'infiltrent et qui n'hésitent pas d'ailleurs à mettre le maillot et le drapeau et qui s'infiltrent et on sait d'où ils viennent.
Mais tu imagines, Christophe, c'est quand même une aubaine pour les racistes. Oui. Une telle situation, on a un rassemblement de plusieurs personnes algériennes ou d'origine algérienne, en tout cas qui viennent supporter une équipe étrangère et qui plus est d'Algérie, donc arabe. Donc toutes les personnes qui sont racistes et qui ont envie justement de salir l'image de cette population, qui ont envie de les discréditer, mais c'est juste l'événement moment parfait en fait pour pouvoir le faire.
Ouais, exact.
Donc enfin moi je suis même pas surprise que qu'il y ait eu des qu'il y ait eu un par exemple là quand il y a eu l'accident sur sur Montpellier, que tout de suite on est tenté de mettre cet acte-là sur le dos des supporters algériens alors qu'en réalité il n'en était rien.
Alors je vous en dirai davantage tout à l'heure parce que le procureur s'est exprimé ce matin hein, sur cette affaire. Et d'ailleurs sachez qu'il est ressorti libre, il est en liberté.
Bah oui, mais c'est même pas surprenant. Mais voilà, donc pour toutes les personnes qui sont là et qui ont pour but de nourrir de la haine, faire en sorte qu'on ait une haine à l'égard des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, bref, toutes les personnes qui sont
ils font pas la différence les racistes.
Voilà, ils font pas la différence, bah là c'est l'événement idéal.
Ouais. Hamid est avec nous, il nous appelle Damien. Salut Hamid. Ah bonjour. Salut Hamid. Qu'est-ce qu'il y a?
Bonjour à tes invités.
Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive?
Pourquoi Amiens? Je suis pas d'Amiens.
Bah, j'en sais rien moi, je t'ai collé à Amiens. Accepte, écoute, c'est sympa comme
Paris,
ville aussi.
Paris toujours.
Ah bon, d'accord. Paris, je suis Belize. Ok, bon. Salut Hamid.
C'est pas grave, ça va. Bonjour à tes invités. Moi je serai encore plus sévère. Moi je dirais même que je dois arrêter même ceux qui se mettent dans les voitures, qui se mettent sur les fenêtres, qui chantent, qui machinent. Je les arrête. Je leur enlève leurs papiers. Je suis désolé. On est en France, qu'on le veuille ou non. On est en train de faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Vous comparez les gilets jaunes, vous comparez un match Portugal-France à l'Algérie. Là, c'est un tournoi qui se passe en Afrique, en Égypte, même pas en Afrique, en Égypte.
Ah, c'est en Afrique, l'Égypte. Hein.
C'est pour... Oui, c'est l'Afrique. Ouais. C'est quoi? D'accord. C'est l'Égypte. On s'appelle en Égypte. C'est l'Algérie. Moi, je suis désolé. L'image que ces brebis galeuses qui eux-mêmes nourrissent la haine, nourrissent le racisme. Avant de parler des racistes, parler de ceux qui mettent leur drapeau sur les épaules et qui cassent. Je ne dis pas que c'est, bien sûr, heureusement que c'est une minorité. Mais cette minorité, vous imaginez l'image qu'ils reflètent, l'image qu'ils en renvoient, qu'ils soient algériens, marocains, je suis désolé, celui de Montpellier, allez dire à ce mari qui vient de perdre sa femme de 42 ans, qui a son enfant de 1 an, qui est dans le coma, allez lui dire non monsieur, c'est juste parce qu'il voulait fêter la victoire.
Mais
je suis désolé. C'est malheureux. J'habite, moi je me lève à 3h du matin. Moi ça me dérange pas parce que j'étais très fier et j'étais très heureux que l'Algérie gagne et qu'elle se qualifie en finale, qu'il klaxonne jusqu'à 3h du matin. Ça ne m'a pas dérangé parce que je ressentis cette joie. En Algérie, ils ont fêté ça. Il n'y a pas eu de mort à part un accident. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu d'agressivité. Il n'y a pas eu de dégradation. Écoutez, 6 ans à mal-être, c'est cette poignée de brebis galeuses qui sont franco-algériens ou français. Vous dites que, je l'ai entendu sur votre chaîne, dans votre chaîne, disant qu'ils ont un mal-être. Je n'ai jamais vécu en banlieue. Je viens d'Algérie, ça fait 30 ans que je vis en France. J'ai toujours dit que si j'avais vécu en banlieue, peut-être que je suis en prison, j'en sais rien. Mon avenir, de quoi il aurait été fait. D'accord.
T'es vachement caricatural, hein, si je peux me permettre, Hamid. T'es vachement caricatural dans tes propos. Moi, j'entends effectivement. Alors, c'est vrai que et ça émane. Je crois que tu dois avoir un certain âge. C'est peut-être pour ça. Et ça émane justement de cette génération qui veut faire plus blanc que les blancs et montrer patte blanche partout où ils passent. Malheureusement, tu pourras pas empêcher les jeunes aujourd'hui qui ont effectivement deux identités. Pardon, laisse pas terminer. Je t'ai laissé finir. Donc,
bien sûr.
Deux identités et qui veulent et qui en sont fiers parce qu'ils le disent à chaque fois. D'ailleurs, on est français. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Nous, on bougera pas d'ici. On est français et on a aussi cet amour pour notre culture, que ça s'appelle l'Algérie. À qui ça pose problème, franchement?
Non mais moi j'ai une question. Est-ce qu'on est certain que les brebis galeuses dont vous parlez sont vraiment des personnes qui sont d'origine algérienne et qui ne seraient pas des personnes qui tentent de simuler?
Manipulé par les médias. Je suis désolé. Je vois des jeunes qui portent qui ont des drapeaux.
Et alors, il y a où le problème?
Et qui cassent.
Justement, pourquoi? Là, c'est un amalgame. Là, vous faites un amalgame.
Je fais pas l'amalgame, je dis des brebis galeuses, pas tous les Algériens.
Êtes-vous certain que les brebis galeuses sont justement des personnes d'origine algérienne?
On est en train.
Est-ce que vous trouvez ça normal à chaque fois que les Algériens fêtent une victoire, une défaite, il y a de la casse?
Mais
vous parlez des Portugais. Est-ce que vous avez entendu que les Portugais ont cassé l'année dernière?
Je peux vous dire que oui, et je peux même vous dire que le nombre de personnes qui sont placées en garde à vue ces soirs-là est identique à celui qui a pu y avoir le soir de la victoire des Algériens. Écoutez, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est moins médiatisé.
Maintenant, continuons à dire ils ont un mal-être, ça je peux le comprendre. Continuons à dire que de toute façon, les racistes, profite de ça, bien sûr qu'il profite de ça. Moi, si j'étais le ministre de l'Intérieur, que je déteste d'ailleurs, je vais vous dire, ça sera les Champs de Mars avec un écran géant. Celui qui sort des Champs de Mars, il sera arrêté. Point barre.
Donc vous êtes donc pour, vous êtes pour l'encadrement. Donc il est pour la mise en place d'un dispositif.
Bon, merci Hamid. Alhamdoulilah que t'es pas ministre, hein, mon frère. 0 à 40 33 9000.
Non mais en même temps, l'État doit encadrer. On est d'accord. Il y a un encadrement, mais il y a une liberté aussi qui a le droit d'être là, qui existe. C'est d'ailleurs dans la Constitution. Mais on peut pas non plus faire d'amalgame et tout généraliser comme vient de faire Hamid.
Non, quand même. Les propos qui viennent d'être tenus à l'antenne, ils relèvent d'un espèce de complexe du colonisé. C'est-à-dire que il y a la première génération d'immigrés qui est encore dans son esprit, et c'était un peu le cas de nos grands-parents, si je parle pour moi, qui ne veulent pas faire de bruit,
ils veulent
se fondre avec le mur. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que on a une troisième ou quatrième génération qui aujourd'hui s'affirme et est complètement décomplexée, a le droit et dans un système d'intégration, certes, pas d'assimilation, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et je vois pas où est le problème aujourd'hui pour un supporter algérien, qu'il soit d'ailleurs algérien ou pas. Hein, moi, je supporte l'équipe d'Algérie, je suis pas du tout algérienne, j'ai pas de lien spécial avec l'Algérie.
Ah bon ?
Et pourtant, oui.
Oui.
Comme s'il ne le savait pas.
Oui, mais écoute, dans tous les cas, même avant ça, tu vois, même avant tout, si je peux.
Non, c'est bon, j'ai rien dit, Faïsa. T'emballe pas, tranquille. 01 40 33 9000.
L'art et la manière de la déstabilisation à la Christophe.
Tout va bien. Nordine est avec nous, il nous appelle d'où, Nordine ? Parce que je dis pas de conneries après. Nordine ?
Jeune Villiers,
on est dans le 9-2 là, ça va, Nordine ?
Ouais, très bien, ouais, je suis dans mon véhicule, j'espère que vous m'entendez bien.
Ah bah impeccable, tu fais quoi dans la vie, Nordine ?
Je suis commerçant indépendant, on se bat tous les jours pour mettre du beurre dans les épinards, on va dire.
Moi j'aime pas les épinards, mais bon.
Commerçant, je suis grossiste, en épines, etc., en marinade.
Ouais, bah bon courage à toi.
Ouais, t'es gentil, merci, ouais, il en faut. Alors, je voulais simplement répondre un peu à Hamid et puis un peu rajouter un peu mon grain de sel, c'est que, en fin de compte, l'histoire de Montpellier, il serait temps de se répéter encore une fois, n'a rien à voir avec le football. Le drame de Montpellier, l'accident mortel, la maman qui est morte malheureusement. Et bon voilà, je voulais rappeler aussi que, parce qu'il a parlé de fan zone à la fin, je rappelle que la fan zone, quand il y a eu l'Euro en France, était tellement saturée que les jeunes portugais qui sont venus en nombre du côté des Champs-Élysées, et sympa, hein, mais dans les jeunes qui sont venus, il y a eu un bordel sans nom, il y a eu des accrochages avec les forces de l'ordre entre les jeunes portugais ou les jeunes franco-portugais et les forces de l'ordre, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour eux dans la fan zone. Donc voilà. Et ça, c'est toujours le phénomène de foule. Vous pouvez pas, vous ne pouvez rien faire.
Tu peux pas maîtriser, bien sûr. Il suffit qu'il y ait un mouvement et ça y est, ça part en live. Bien sûr.
Moi, j'ai participé à plusieurs manifestations de gilets jaunes sur les Champs-Élysées cet hiver.
Ouais.
J'étais au boulevard Haussmann et je peux vous dire qu'il a suffi d'un mec un peu énervé, mais vraiment un peu énervé, qui a commencé à chauffer la foule autour de lui. Les gars, ils sont venus, ils ont commencé à caillasser les forces de l'ordre qui, elles, ne pas en véhicule, hein, elle passait en voiture dans une rue à sens unique, les gars sont partis en marche arrière, ils ont rien pu faire. Il a suffi d'un mec, hein, c'est pas un exception, c'est l'effet. Ça provoque d'autres qui viennent et qui sont un peu excités. À 200 mètres, il y a des mecs qui ont commencé à s'exciter, ils ont commencé à casser une papeterie de luxe, une petite papeterie, on va dire. Malheureusement pour le patron, ils ont défoncé la vitrine. Et simplement, c'était un après-midi, c'était des petits blancs, j'ai filmé le truc. Moi, j'étais à 10 mètres, j'ai filmé, les gars. Je vous confirme que c'était des petits blancs, entre guillemets. C'est pas des jeunes de banlieue qui sont venus faire la casse.
Ouais.
Maintenant, pour revenir aux jeunes de banlieue, moi, ce que je pense, c'est qu'une majorité d'entre eux, et moi, je suis algérien, une majorité d'entre eux sont hors sol. Le fait d'être hors sol culturellement, le fait de s'accrocher. D'abord, le football, c'est un phénomène mondial, qui effectivement cristallise les passions. Et les jeunes algériens de France, et on, là-dessus, peuvent s'accrocher aussi, bien sûr, d'autres maghrébins, ils sont hors sol culturellement. Et le fait de pouvoir s'accrocher à un truc positif, vous ne pouvez rien faire contre ça.
Bah oui, mais c'est logique.
Mes enfants le font. Mes enfants sont. Ma femme, qui connaît rien au foot, veut voir le match en replay. C'est-à-dire un truc de fou, tu vois.
Ah oui, là ça devient inquiétant, là, Nordine.
La demi-finale, elle va la revoir en replay.
Ouais.
Tellement, on va dire, il y a un lien qui se fait. Et effectivement, quand vous posez la question à 80% de ces jeunes-là, d'origine algérienne, qui sont français, 80% ne veulent pas aller en Algérie en vacances. C'est vrai, c'est un fait.
Merci, Nordine. Merci beaucoup, je suis désolé, puisqu'on a la pub, on doit y aller, hein, évidemment, mettre un peu de beurre dans les épinards, comme vous dites si bien. 01 40 33 9000, est-ce que vous comprenez ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur? Il promet d'être important à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. À tout de suite. Alors sur ta réflexion, ma chère Faïsa, que tu viens de faire hors antenne, je peux te dire que c'est impossible. Voilà.
Ouais. Bon.
C'est, tu connais comment il s'appelle le truc des Misérables, là, celui qui est avare là. Comment il s'appelle?
Oui, ben c'est ça.
Le mec là qui est radin de ouf là.
C'est qui? Samir, il a dit Jean Valjean.
Voilà, Jean Valjean. Voilà, bah, tu vois, c'est Jean Valjean, tu vois. Bon.
On a perdu Christophe. Attention.
0-1-40-33-9000, évidemment.
Christophe, reviens.
Merci de nous rejoindre, évidemment. C'est le grand format avec Maître Maghrébi. Bah, écoutez, j'ai deux, charmantes dames avec moi, donc je suis perdu, moi. Vous comprenez? 0-1-40-33-9000, évidemment, pour nous appeler, pour prendre part à la discussion. On est en train de parler de ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu ce vendredi à 21h, retransmis, je le rappelle, sur TMC en clair. Ça c'est pour la petite info au passage. Donc à l'issue de cette finale, on craint des débordements. Donc le ministère de l'Intérieur met un dispositif exceptionnel. Mais est-ce que vous comprenez justement la mise en place de ce dispositif? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter Le Grand Forum FM2, et vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000. Les preuves que les femmes s'intéressent au foot, Fouzia est avec nous. Bonjour Fouzia.
Oui, bonjour Christophe. J'aimerais bien participer à cette discussion concernant le dispositif.
Alors, vous êtes en direct, Fouzia. Vous nous appelez d'où d'abord?
J'appelle de Paris 12e.
Paris 12e. Soyez la bienvenue, Fouzia. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle? Merci. Qu'est-ce qui vous fait réagir?
En fait, je comprends pas. Tout d'abord, j'aimerais bien répondre à l'auditeur qui a appelé avant, ou bien il a appelé tout à l'heure.
Oui,
qui s'appelle Hamid.
Oui.
Hamid, je ne comprends pas. Soit on est algérien, soit on n'est pas algérien. Je comprends pas. À mon avis, hein, Christophe, excuse-moi, à mon avis, il s'appelle Hamid comme moi je m'appelle Georgette. Hein. À mon avis.
Non, détrompez-vous, ma chère Fouzia, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, dans la communauté, ouais. Et particulièrement l'ancienne génération, et on peut le comprendre. Encore une fois, il ne s'agit pas de leur de jeter la pierre, hein. Attention.
Le comprendre, je le comprends pas, parce que moi j'ai mes enfants, j'ai 4 enfants qui sont entre 22 ans et 24 ans, ils vont tous les ans en Algérie, ils adorent l'Algérie, et quand ils sont contents, je sais pas pourquoi, on n'a pas le droit, on est stigmatisé en tant qu'Algérien, en tant que musulman, et surtout en tant qu'Algérien, on est stigmatisé, on n'a pas le droit pour faire la fête, on n'a pas le droit d'être content, on n'a pas le droit d'être fier de notre pays. Pourquoi ils ont peur de nous à ce point? On n'a pas le droit d'être fier de notre pays. Tenir le drapeau, eux, quand ils ont été chez nous pendant 130 années, ils ont bien levé le drapeau chez nous.
Pas oublier les deux ans, hein. 132 ans, c'est important.
Oui, mais bon, soit on est comme je vous ai dit au début, soit on est algérien, soit on n'est pas algérien. On peut pas dire, moi je regarde un match, je regarde l'Algérie qui joue l'Algérie. De toute façon, moi je m'intéresse pas au foot. Sauf que l'Algérie, quand il y a l'Algérie au foot, ça je regarde les matchs que quand il y a l'Algérie qui joue. Et je regarde l'Algérie en train de jouer, il y a mon cœur qui est en train de trembler. Je sais pas, tout mon corps est en train de trembler. Et j'ai pas le droit d'être content, et j'ai pas le droit de lever mon drapeau, et j'ai pas le droit. Mais c'est une n'importe quoi. On fait la fête. C'est comme, on est stigmatisé. On a le droit à rien faire, en fait. Il n'y a pas que le foot, monsieur Christophe. Il n'y a pas que le foot. Même dans les lieux de travail.
Vous me dites ça à moi j'y peux rien, hein, Fouzia.
Bien sûr que vous avez le droit d'être heureuse et d'être fière de votre pays et des victoires de votre pays. C'est un droit que vous avez. La seule chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui profitent de cette joie et de cette manifestation de joie pour salir encore l'image. Et c'est là où l'encadrement est nécessaire, mais évidemment que vous avez le droit d'être heureuse et de manifester votre joie. Et il le faut, et vous avez le droit d'être fière d'être algérienne et de porter les couleurs de l'Algérie.
Merci beaucoup, parce que croyez-moi, je suis sortie avec mes enfants, avec mes 4 enfants, je suis sortie pour être contente, pour montrer que je suis contente, que je suis fière de mon pays, je suis fière de mon drapeau. J'avais peur, à chaque fois il y avait CRS derrière moi, j'avais peur, je cache le drapeau, après je le retire, j'ai presque 50 ans, hein, j'ai presque 50 ans, mes enfants ils ont entre 22 ans et 24 ans, eux ils s'en foutent, eux ils ont pris le drapeau, ils sont partis, ils s'en foutent, la police, oui, il y a pas la police, ils s'en foutent, ils sont partis, au moment on est en train de rien faire, on chante, on fait rien du tout, on est en train d'exprimer notre joie, d'être fiers de notre pays, laisse-nous, on fait rien du tout. Par contre, moi j'avais peur, j'avais le stress derrière moi, à la fois contente, à la fois le stress, avoir peur que mes enfants se trouvent en garde à vue, parce que c'est pour rien, pour un an, ils peuvent leur faire un dossier, leur mettre en garde à vue. J'avais peur d'être fière, j'avais peur d'être...
Maître Maghrébi confirme.
Oui, alors ça je peux vous dire que tout... Alors ça, c'est un message que je peux faire passer. On peut tous, et moi la première, on peut tous se retrouver en garde à vue pour n'importe quelle raison. C'est vraiment, donc, cette crainte, j'ai envie de vous dire, enlevez-la, parce que vraiment, on peut tous se retrouver en garde à vue, vos enfants peuvent s'y retrouver, vous pouvez vous y retrouver, moi aussi, c'est comme ça. Il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, quand ils décident d'embarquer tout le monde, ils embarquent tout le monde et vous êtes placé en garde à vue. Le placement en garde à vue, c'est pas, faut pas vous dire que les personnes qui sont placées en garde à vue ou le fait d'être placé en garde à vue signifie que vous êtes coupable. Faut pas porter une, il y a pas de culpabilité à avoir dès qu'on entend garde à vue. La garde à vue, c'est une mesure qui est mise en place juridiquement pour pouvoir permettre de donner le temps aux officiers de police judiciaire de trouver la vérité. C'est ça la garde à vue. La garde à vue, elle sert à ça. C'est un moment où on vous met à leur disposition pour voir en fait ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, faut pas avoir peur de ça parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où il y a une bagarre et ils savent pas, ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a une bagarre, et ben ils vont prendre tout le monde et ils vont entendre tout le monde pour essayer de démêler un peu le vrai du faux. Donc, tout le monde peut être placé en garde à vue. Il faut pas en avoir peur.
Si on peut l'éviter, c'est quand même mieux.
Si on peut l'éviter, c'est mieux. Mais en tout cas, faut pas juger les personnes qui sont placées en garde à vue, parce que j'ai beaucoup entendu. Cette personne, elle est souvent en garde à vue.
Mes enfants, c'est les jeunes. J'avais peur ce jour-là.
Bon, tout va bien, Fozia. Vous êtes
à la fois contente et peur. Non. Et pourquoi on est stigmatisé? Pourquoi il y a pas que foot, Monsieur Christophe. Il y a pas que foot.
Je sais.
Même dans les lieux de travail, même dans les sociétés, on travaille. On n'est pas considéré comme les autres. On dirait qu'il y a les hommes et les sous-hommes. On n'est pas considéré comme les autres. Je prends un exemple banal. Les Portugais, ils ont droit à l'erreur, ils ont droit à tout. Mais quand une personne d'origine musulmane, algérienne, marocaine, tunisienne, je sais pas, elle fait l'erreur, là, c'est le tremblement de terre qui se passe dans la société.
Je dirais même pas qu'elle fait l'erreur. Je dirais même qu'il y a des personnes qui sont là et qui provoquent des erreurs pour les mettre sur le dos de.
Évidemment. Bon, merci Fozia. En tout cas, elle va déstresser. Tout va bien. Vous allez voir, l'Algérie va gagner. Elle va ramener la coupe à la maison.
Et la tête haute, vous êtes fière et la tête haute.
Mon pays va gagner. Inch'Allah.
Merci Fozia, à bientôt.
Merci, au revoir.
01 40 33 9000. Moi, ça m'horripile, moi, Faïza, d'entendre des gens comme ça qui ont peur. C'est un truc de ouf pour aller célébrer une victoire d'un match de son équipe qu'on suit. On a peur et tout de suite, j'ai pas l'impression d'être en France quand j'entends ça. Hein.
Bah, si tu veux, c'est un peu la peur de quand tu vas célébrer, la peur de l'uniforme, la peur du CRS, la peur du gendarme, la peur de la police. C'est un peu ce que vivent certains jeunes issus des quartiers populaires quand ils voient la police rentrer dans leur quartier. C'est des rencontres qui se font que sous fond de tension habituellement. Donc forcément, déjà le policier qui va aller encadrer le match de l'Algérie vendredi soir, il partira forcément avec un a priori, avec tout ce qu'il aura entendu pendant toute la semaine. Il partira avec des craintes, avec des trucs. Et combien de fois on a entendu des policiers, par exemple, dans des cas de crimes policiers, dans des cas de violences policières, qui expliquent « oui, mais le contexte était tellement tendu que j'ai perdu mes moyens, j'ai tiré ». J'ai perdu mes moyens, j'ai sorti ma matraque, je les ai tabassés, je savais pas, j'avais peur, on m'a dit que ce quartier il était chaud, on m'a dit que, et finalement ça les fait eux-mêmes appréhender la situation d'une manière avec laquelle ils n'auraient pas forcément vécu dans un contexte plus favorable, plus calme, plus apaisé. Du coup, si tu veux, même pour nous, population issue d'immigration, pour ce que disait la dame, c'est un peu normal quand elle y va. Enfin, je dis pas que c'est légitime, mais c'est normal en tout cas que elle le ressente comme ça. Quand tu sors, après, tu vois un policier, bah forcément, t'as peur. Tu te dis, attends, il a entendu tout ça, il a vu tout ça. De toute façon, il est là pour casser de l'arabe. Qu'est-ce qui va nous arriver?
C'est ça, parce qu'ils sont dans une posture qui est plus celle de la répression que de la prévention. Donc c'est normal quand on est dans la posture de la répression, on est plus dans la peur.
Il va falloir qu'on enquête sur ce qui s'est passé à Argenteuil. Visiblement, une femme qui a été un peu embêtée parce qu'elle portait le foulard pour se marier, elle a dû le retirer pour qu'on procède à la cérémonie. Des hommes qui étaient présents ont quitté la mairie. La pauvre s'est mariée en pleurs. Donc ça s'est passé du côté de Argenteuil. Enquête à l'appui, ma chère Faïza, il faut qu'on creuse là, parce que c'est gravissime. Quoi.
Bah, c'est un cas typique d'islamophobie institutionnelle, de racisme d'État, de tout ce que tu veux. On a beau nous répéter que ça n'existe pas, après il faut aussi que les communautés musulmanes, les Français de confession musulmane se renseignent aussi sur leurs droits, parce que cette dame, si elle savait qu'elle avait le droit et de se marier avec son foulard, elle l'aurait certainement pas retiré, parce que t'as aujourd'hui un certain nombre de fonctionnaires des administrations, peu importe, hein, que ce soit des mairies, le département, la région et tout, qui affirme des choses discriminatoires avec un tel aplomb que quand tu connais pas tes droits, eh ben tu peux que croire ce qu'il te raconte en fait. Là, en l'occurrence, l'adjointe au maire, là, quand elle dit vous avez pas le droit, je peux pas vous marier avec le foulard, ben la jeune fille en question, elle connaissait pas ses droits et donc elle a retiré son foulard. Moi, ça me serait arrivé, je suis pas voilée, mais demain je décide de me voiler, ça m'arrive. Je sais que c'est elle qui va se déshabiller si elle veut se déshabiller, mais moi je me déshabille pas.
Oui. D'ailleurs, Basma, tu dis souvent, vous avez des droits, faites-les valoir.
Non, je dis souvent, non. Vous avez des droits, faites-les respecter.
Faites-les respecter, d'accord.
Parce que, en effet, c'est presque la même chose, oui. c'est faites-les valoir, faites-les respecter, valoir, c'est pas vraiment pareil. Mais je vais pas rentrer sur ce débat-là. Oui, on est vraiment dans un manque de connaissances, un manque de savoir, et c'est pour ça que moi, je prône depuis des années l'éducation. Je parle tout le temps d'éducation, parce que si les gens connaissaient leurs droits, ils sauraient les faire valoir. C'est vraiment,
ah,
c'est extrêmement.
Tiens, valoir, tiens,
oui,
il est là.
Mais tu, ah. Bah oui, mais tu fais, comment tu fais respecter tes droits? Tu fais respecter tes droits en les faisant valoir. Donc c'est,
oui,
pas la même chose.
Oui.
C'est extrêmement important. Et
sujet
là, on a trop de personnes qui sont dans l'ignorance. Et quand t'as une personne qui est ignorante, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus manipulable et on a, en face, on a beaucoup plus de facilité à violer ses droits. Tu vois, c'est, ouais. Et là, c'est exactement ce que dit Faïza. Si cette personne connaissait ses droits, en 2-3 mois, elle la remet à sa place.
Ouais.
Mais enfin, elle les connaissait pas. Et ça arrive.
Mariée,
et ça arrive même dans les préfectures, hein.
Voilà,
ça, je l'ai vu très souvent dans les préfectures aussi.
Ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie, bah voilà, c'était en pleurs, enfin, une catastrophe. Monji, tiens, ça faisait longtemps. Salut Marseille.
Ça faisait longtemps. Salut tout le monde. Salut maître, salut, notre ami, Denis.
Faïza s'appelle. Faïza, mon Dieu, fais pas le malin, Faïza, mon Dieu. Fais pas le malin, tu la connais très bien, Faïza, là. Qu'est-ce que tu fais semblant de chercher son prénom, là?
Mais j'étais tellement, j'attendais tellement que...
Ouais, mais c'est vrai qu'à Marseille, vous êtes totalement perdu, hein, ça.
Mais n'importe quoi, à Marseille, on n'est pas perdu. Mais n'importe, il faut pas vous laisser faire, mon Dieu, hein.
Bon, vas-y, mon Dieu.
Défendre votre ville, là.
J'ai organisé un peu ce que j'allais dire parce qu'il y a tellement de sujets. Surtout, moi, c'est lui qui m'a rendu fou. En plus, je dis oui, mais moi, je viens d'Algérie. Moi aussi, je viens d'Algérie. J'ai grandi en Algérie. Je suis arrivé en Algérie. D'Algérie, j'avais 21 ans. Ça fait 25 ans que je suis en France. Et c'est des gens qui vivent avec, ils se considèrent pas chez eux. Peut-être moi, je suis pas chez moi. Et d'ailleurs, je suis même pas français. Mais, je vis ici et on est là où on participe à la cité, dans la vie de la cité. C'est là notre pays, en fait, à vrai dire. Moi, l'Algérie, bien sûr, évidemment, je suis algérien. J'étais étonné, je suis pas très, très drapeau, en fait, à vrai dire, en vrai. Mais j'étais étonné que ma fille, elle a porté le drapeau, pour la première fois, c'est pour le quart de finale, même, j'ai regardé comme ça, je dis, le drapeau. Oui, papa, aujourd'hui, je prends le drapeau. C'est la première fois que j'ai vu ma fille, draper dans le drapeau algérien et marcher avec, fièrement. Et franchement, moi, ça me saoule. C'est exactement le discours qu'on entend. Et certains me disent, ouais, mais ils font la fête. Ils font la fête.
Manger, je comprends rien à ce que tu me racontes, en fait. Qu'est-ce qui te saoule?
Ah bon? En fait, ce qui me chagrine. Oh, le téléphone de travail,
c'est... Non, il semble être gêné.
J'ai pas compris ce qu'il veut dire, moi.
Il est gêné par le fait que des Algériens,
oui,
rejettent le fait qu'on puisse aimer l'Algérie, voilà. Et en fait, c'est un peu la phrase que tu disais tout à l'heure, qu'il souhaite être plus français que le français.
D'accord. Okay.
Il est gêné par ça.
Et
qu'ils en arrivent donc à oublier leur identité.
D'accord, voilà. D'accord. Merci, maître.
Si elle a rien à voir à personne, elle fait ce qu'elle veut, tant que ça tombe pas sur le coup de la loi, elle fait ce qu'elle veut, voilà.
Ouais.
Si elle est faute, c'est au service de l'État d'assurer la sécurité, c'est pas aux uns ou aux autres de se mettre à la place de service d'État. Mmh. Et je voulais revenir aussi sur la question de la mariée, quand on a fait retirer son vol. Je suis désolé, Faïza, il y a un truc. C'est que moi, j'ai un témoignage d'une femme comme ça, et j'ai dit la même chose, j'ai dit, mais t'as le droit, c'est ça. Elle m'a dit, mais franchement, j'avais même pas la tête de perdre mon temps avec elle. Vous savez, c'est un moment, en fait, c'est un moment particulier. Excusez-moi, je vais utiliser un terme peut-être un peu fort. C'est comme un viol, des fois, il y a cette résignation, en fait. On n'a pas envie de perdre son temps. C'est bon, par exemple, les victimes de viol...
Ta comparaison, elle est très limite, Manji, franchement. Ta comparaison, elle est, ta comparaison est extrêmement limite, hein, excuse-moi. Mais bon, on a bien compris.
Non, c'est un jour de liberté quand même. C'est le jour, de son mariage, on vient.
Ah oui, d'accord, un viol de liberté, ok. Non, mais parce que pour toujours remettre les choses dans leur contexte.
C'est sidération, c'est un monde de sidération.
Oui.
On s'attend le tout, sauf à ça.
Bon.
C'est ça que je voulais dire, en fait.
Merci, Manji.
Merci beaucoup.
Et achète-toi un téléphone pendant les vacances, hein, parce que franchement, pourri ton téléphone. 01 40 33 9000. On a Karim qui est avec nous. Beaucoup de monde au standard, hein. Donc essayez d'être le plus rapide possible pour que les gens puissent s'exprimer, en fait. Karim, bonsoir.
Oui, bonjour.
Bonjour, tu nous appelles d'où, Karim?
Je t'appelle de Trappes.
De Trappes, on est dans les Yvelines.
C'est ça.
Bon, qu'est-ce qui se passe, Karim?
Moi, je vous appelais pour réagir un peu par rapport au sujet de déploiement, en fait, au niveau des Champs-Élysées, en fait.
Oui.
Donc, après, je pense que, bon, moi, je suis d'origine algérienne.
Oui, et fier de l'être.
Ouais, très fier de l'être. j'ai une quarantaine d'années. Et je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, on a le droit d'être algérien, on a le droit de revendiquer cette double culture, d'en être fier. Mais moi, ce qui me dérange, c'est les violences. Aujourd'hui, ce qui se passe quand il y a un match de l'Algérie. Après, on peut comparer avec le Portugal, on peut dire oui, mais les Portugais, ils ont fait ci, ils ont fait ci. C'est pas parce que les Portugais, les Maliens ou une autre nationalité fait quelque chose fait n'importe quoi en fait sur les Champs-Élysées que bon on va dire oui mais eux l'ont fait, bah nous on le fait aussi mais on dénonce plus l'Algérie. Non, à un moment donné, il y a il faut être concret, il faut être sérieux et quand on vient manifester sa joie, on la manifeste calmement, paisiblement.
D'accord ? Ouais, ça part d'un bon sens.
Voilà, il y a le respect du voisin. Donc moi, je sors mon drapeau, je le sors dans la dignité, je suis digne, je suis fier, mais je respecte mon voisin. Je ne vais pas aller brûler une voiture parce que c'est arrivé, il ne faut pas se voiler la face, ça arrive. Et aujourd'hui, faut un peu arrêter avec les thèses complotistes que ce serait d'autres personnes qui enfileraient un maillot de l'Algérie et qui éventreraient une vitrine et qui vaudraient deux, trois motos. Malheureusement, ça arrive souvent. Quand c'est l'équipe d'Algérie qui joue.
Oui, mais là, moi, je suis pas d'accord avec vous.
Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît?
Vas-y, Karim.
Depuis une heure et demie. Mais alors, quand nos amis, nos frères marocains jouent, ou les Tunisiens jouent, on n'entend jamais, ou très rarement, ce genre de phénomène.
Et quand les Tunisiens gagnent, c'est juste moins médiatisé les violences qui ont lieu.
Ouais.
Mais non, mais c'est pas. On va le laisser terminer. On
répond. Oui, Karim.
Alors moi, j'habite à Trappes, pas très loin des Champs-Élysées. Donc je peux vous dire que il y a une forte communauté algérienne, marocaine, tunisienne. Je prends l'exemple du quartier où j'habite. Quand les Tunisiens et les Marocains gagnent, ça leur est arrivé durant cette CAN. C'est beaucoup moins bruyant que les Algériens. Et beaucoup moins, entre guillemets, violent. Attention, je dénigre personne. Mais je me dis qu'à un moment donné.
Mais est-ce que vous en êtes sûr?
Attendez, si on veut être respecté, il faut donner du respect. Moi, c'est comme.
Bon.
Pour moi, c'est.
Très bien, on t'a entendu, Karim.
Moi, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose. C'est que, pour essayer de dire les choses simplement, c'est pas parce que on est, je suis pas algérienne, mais c'est pas parce qu'on est algérien qu'on a une obligation de triple vigilance parce que il risque de se passer quelque chose. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un dispositif juridique qui est mis en place, qui prévoit qu'il faut éviter les troubles à l'ordre public, que quand il y a un risque de trouble à l'ordre public, il y a des choses qui doivent être mises en place, que ces choses qui doivent être mises en place, elles ont été posées dans les textes et ça a été voté et ça a été érigé en loi, pas pour les Algériens. C'est que dès qu'il risque d'y avoir une émeute ou dès qu'il risque d'y avoir une manifestation, dès qu'il risque d'y avoir un mouvement de foule, il y a des lois qui sont là pour encadrer et dire ce qu'il faut faire. Donc, on met en place ce dispositif de sécurité parce que c'est un dispositif juridique qui existe et il n'est pas propre aux Algériens. C'est pas seulement parce que c'est un match où il risque d'y avoir une victoire des Algériens. C'est, on le met en place que ce soit des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Quand on est dans une situation où il risque d'y avoir des violences, on met en place le dispositif, point. Faut pas voir ça comme quelque chose de vexant ou quelque chose de dramatique. On le met en place dès qu'il y a un risque d'émeute ou de manifestation. Maintenant, là où c'est gênant, et c'est ce qu'on disait avec Faïza tout à l'heure, c'est la surmédiatisation qui en est faite. Médiatiser et essayer d'utiliser ça pour salir l'image des Algériens, c'est là où c'est grave et c'est là où il faut se plaindre, mais pas sur le fait qu'on met en place un dispositif. C'est pas parce qu'on est algérien qu'on doit être plus sage que les autres. Il y a un risque d'émeute, il y a une émeute et il y a de la foule, il y a des risques de violence et des risques de débordement. Donc il y a des règles qui sont là pour encadrer les troubles à l'ordre public.
Faïza ?
Ben, surtout là depuis tout à l'heure et on a beaucoup entendu d'auditeurs, on a l'impression que on veut interroger une responsabilité collective des Algériens dans les violences qui sont commises. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui dans le système judiciaire français, on est sur une responsabilité individuelle. Si tu as un individu qui casse une vitrine, il répondra de ses actes à titre individuel. Exactement. C'est pas tous les supporters algériens qui sont aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure, la communauté algérienne est à plus de 2,5 millions de personnes. C'est pas 2,5 millions de personnes qui sont coupables d'un vol de scooter sur les Champs-Élysées ou d'une dégradation de vitrine. Les interdictions de manifestation, elles doivent être justifiées par un trouble à l'ordre public conjugué avec une incapacité des autorités à pallier à ce trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, le gouvernement a, on est quand même en France, on n'est pas dans un pays du tiers-monde, le gouvernement a largement les moyens de faire cesser des violences s'il y en avait, si elles émanaient de supporters algériens, portugais, maliens, français ou ce que vous voulez, elle a les moyens de les arrêter. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire les Algériens, à chaque fois c'est eux ou à chaque fois c'est pas eux. Non, je suis désolée, le 14 juillet, il y avait aussi des gilets jaunes, il y avait des blancs, des jaunes, des noirs, il y avait tout le monde sur les Champs-Élysées. On a vu des images, on a vu des vidéos, des dégradations, elles ne sont pas commises par les Algériens. C'est déjà, ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont Algériens. Il y a eu des célébrations de partout. Au Maroc, ça a célébré aussi, il n'y a pas eu de violence. En Tunisie, ça a célébré aussi la victoire de l'Algérie, il n'y a pas eu de violence. Aujourd'hui, il faut vraiment rappeler une chose, c'est la responsabilité individuelle des personnes qui est engagée.
D'ailleurs, la Tunisie qui joue son match pour la troisième place ce soir face au Nigeria dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y a le match de la troisième place qui est important. Très bien, écoutez, on va suivre de très près ce qui va se passer. Je rappelle donc, vous pouvez continuer de voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Comprenez-vous ce dispositif exceptionnel, nous dit-on, mis en place ce vendredi à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera à 21h au Caire. Retransmise d'ailleurs sur TMC sur la chaîne 10 en clair, donc ça c'est bien pour ceux qui vont pouvoir regarder la finale. Ils ont compris qu'il y avait de l'audience là quelque part, et donc c'est vendredi soir, et dispositif exceptionnel. Est-ce que vous comprenez donc ce dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. J'aimerais qu'on ouvre un dossier dans un instant d'un chroniqueur qui est avec nous depuis quelques années maintenant. Il s'appelle Hicham Terrak, et Hicham Terrak, son histoire elle est terrible. Son papa qui a 4 ans a disparu, son papa est à Alzheimer. Il a disparu, ils n'ont jamais retrouvé. On est au 4e anniversaire de sa disparition. Toujours rien, bien malgré de nombreuses relances auprès des autorités compétentes. Un dispositif, et nous expliquera Hicham, qui est pas forcément adéquat. Mais en tout cas, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ce pays, en France, on n'arrive pas à retrouver quelqu'un qui a disparu, qui plus est un vieux monsieur, donc malade. Cette famille a besoin de savoir ce qu'il en est pour qu'elle puisse faire son deuil, qu'il soit vivant ou mort. Et ils ont besoin de savoir ce qu'il en est de leur papa, ce qui est tout à fait évidemment légitime et compréhensible. On en parle avec lui dans un instant au 01 40 33 9000, aussi à suivre des infos zappées. Tiens, je vous parlerai notamment dans les infos zappées d'un jugement qui a été rendu, vous savez, par ce monsieur qui avait agressé un aveugle et son frère accompagnateur. Il a été puni. Pas très sévèrement, je trouve, mais on en reparlera dans un instant avec Maître Bagrévi, d'ailleurs, qui nous donnera son avis. Et puis, quelques infos zappées, donc forcément, c'est à suivre sur France Maghreb 2, restez bien avec nous. Je n'en oublie pas, le fameux quiz du LGF aujourd'hui. Nice contre Paris, Paris contre Nice.
Ah mais tu sais très bien, je ne joue pas moi.
Mais si, de toute manière, ça va être Besma et moi contre toi, Christophe.
Oui, bien sûr.
Ah oui, bonne idée.
Non mais en plus, attendez.
On change les règles aujourd'hui.
Je vous ai fait un quiz des plus simples, d'accord. Je me suis adapté. J'ai fait un quiz très simple pour que, voilà, il y ait au moins une gagnante. Qui sera-t-elle? Vous le saurez en fin d'émission. Évidemment, à tout de suite. Le grand forum FM sur France Maghreb 2, oui, c'est évidemment pour nous appeler 01 40 33 9000 pour voter. Voilà, c'est, je m'y perds un peu parfois, le cerveau tourne un petit peu trop vite. Le grand forum FM2 sur Twitter pour voter, sur Facebook France Maghreb 2 bien sûr pour voter et répondre à cette question suite au dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur au soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera ce vendredi à 21h. Est-ce que vous comprenez ce dispositif? Vous répondez à cette question. Pour l'instant, vous êtes 49% à dire oui sur Facebook. Besma Maghrebi est avec nous, Maître Maghrebi, la militante et journaliste Faiza Ben Mohamed, qui est avec nous également depuis Nice. Et je vous propose d'accueillir un autre chroniqueur, Hicham Terrak, qui est avec nous. Salut mon Hicham.
Comment tu vas, Christophe?
Bah écoute, ça va très bien. Hicham Terrak, donc l'histoire que je racontais au préalable.
S'il te plaît, je t'entends pas très très bien, en fait. Donc je sais pas si on peut juste améliorer un petit peu la qualité, mais...
Non, bah écoute...
Alors, comme je suis en voiture, ça va pas être facile.
Oui, j'ai l'impression. Bon, alors, donc, juste pour expliquer un petit peu ton histoire, Hicham, cela fait 4 ans jour pour jour, donc on est le 17 juillet, que ton papa n'est pas rentré à la maison, ton père est atteint d'Alzheimer, et visiblement il n'est jamais rentré à la maison. Ça fait 4 ans que ça dure, sans qu'il n'y ait un quelconque espoir. Enfin, il y en a eu, mais très minime par rapport, évidemment, parce que ça fait quand même 4 ans, on n'est pas capable de retrouver une personne âgée malade dans ce pays, Hicham.
Alors voilà, aujourd'hui ça fait 4 ans, on va dire que ça fait officiellement 4 ans, parce qu'il y a exactement jour pour jour 4 ans où j'ai fait cette fameuse déclaration au commissariat, donc pourquoi mon père avait disparu et que au vu de sa condition, de son âge et aussi de sa maladie, que c'était ce qu'on appelle une disparition inquiétante. Et malheureusement aujourd'hui, oui, on peut se permettre de dire qu'en France, on a plus de facilité à retrouver des gens armés et dangereux que des personnes lambda qui ont aidé à reconstruire ce pays, qui ont aidé à ce pays à se développer. Des héros de tous les jours, en fin de compte. Voilà, des héros de la vie de tous les jours, qu'ils soient africains ou non, issus d'une diaspora ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, ouais, voilà, j'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis un petit peu très très amer, en fin de compte. Pourquoi amer? Parce que, bah, comme j'ai expliqué aujourd'hui dans la petite vidéo que j'ai postée, j'ai beau avoir du réseau, j'ai beau avoir vu énormément de monde, que ce soit les médias. J'ai eu la chance d'avoir été reçu à 2 reprises à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, on va dire que mon histoire est tombée peut-être dans les lenteurs administratives, dans je ne sais pas quoi, en fait. Et c'est juste compliqué parce que, finalement, tu t'en sors pas et j'ai aucune réponse. Aujourd'hui, en toute honnêteté, j'ai absolument rien. Quand je dis rien, c'est le rien total, le zéro absolu. À savoir, comme j'expliquais, mon père, il est peut-être enterré quelque part, il est peut-être vivant quelque part. Il y a rien, absolument rien, absolument rien.
Vous imaginez, évidemment, vous qui nous écoutez à la radio, qu'on vit avec ça. Ça fait 4 ans et comme tu le disais si bien dans ta vidéo, j'y pense énormément, parfois un peu moins, mais forcément on y pense parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Besma, est-ce qu'il y a un dispositif quand même quand quelqu'un disparaît, qui plus est malade, hein, donc atteint d'Alzheimer, on sait ce que ça conduit, c'est-à-dire c'est les personnes qui peuvent se perdre, qui peuvent ne pas revenir à la maison, etc. Il n'y a pas de dispositif mis en place?
Alors en fait au départ quand il y a une disparition, ils doivent d'abord déterminer si on est face à une disparition qui est dite inquiétante ou non. Lorsqu'on a une personne qui est en situation de vulnérabilité parce qu'elle est atteinte d'une pathologie qui va altérer ses facultés mentales, on peut considérer que cette disparition est inquiétante. Et à ce moment-là, normalement, dès qu'ils ont connaissance de la disparition qui est dite inquiétante, ils sont censés mettre une équipe d'enquêteurs en place pour rechercher la personne activement et essayer de la retrouver. Maintenant, là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent, on va avoir une équipe qui va être composée d'enquêteurs, qui va censé devoir chercher la personne, mais ça va être sur un petit laps de temps, et plus ça va durer et moins ils vont enquêter et plus le dossier va être mis de côté et va prendre la poussière.
Alors moi je valide ce que vient de dire notre cher Besma, tout en sachant que le bureau de la recherche des personnes de la PJ n'a quasiment aucun moyen. Alors c'est-à-dire qu'ils ont, alors c'est une petite équipe de moins de 10 personnes. Ils ont en charge l'Île-de-France plus des départements qui limitrophes à l'Île-de-France. Donc imagine-toi le nombre de personnes que tu as et le peu de moyens. Sachant une chose, c'est que c'est par exemple, pour que tu comprennes, enfin pour que vous compreniez, c'est que c'est par mes contacts que mon père a entre guillemets eu une fiche Schengen. C'est-à-dire qu'il est recherché sur les pays limitrophes de la France. Enfin de France, je m'exprime un petit peu mal, désolé. Mais c'est parce que j'ai des amis gendarmes qui ont fait cette démarche-là. Sinon, personne ne le fait pour vous.
Alors que normalement, ça doit être fait immédiatement.
Quand on est tout seul, quand on dit qu'on est tout seul, si quelqu'un est dans la même situation que moi et qu'il vous dit « je suis tout seul », j'y arrive pas, c'est qu'il est réellement tout seul. Il y avait un système, la RIF, qui a été retiré, c'était sous l'air Valls. On vous demande bien pourquoi, mais je pense que c'était peut-être histoire de faire quelques économies.
Pour éviter qu'on le retrouve à Barcelone.
La recherche dans l'intérêt des familles, qui permettait justement de retrouver les personnes disparues. Alors il paraît qu'il y a eu des abus de part et d'autre, alors à savoir des détectives privés qui se faisaient passer pour des gens de la famille, pour retrouver des ayants droit ou des gens qui devaient de l'argent, comme aussi des vraies personnes qui recherchaient vraiment leurs parents disparus. Mais aujourd'hui, voilà, clairement, il n'y a absolument rien qui permet d'aider une personne. Je dis bien rien, c'est ce que je veux dire, ça n'engage que moi, attention, mais aujourd'hui, avec ce que j'ai fait, au vu de ce que j'ai pu vivre, il n'y a rien. Concrètement, il n'y a vraiment rien. Et,
alors que normalement, au niveau judiciaire, ce qui doit être mis en place, enfin, immédiatement, ils sont censés faire des auditions de témoins qui étaient là lorsque la personne a disparu, faire des constatations en ce qui concerne la police technique et la police scientifique. Ils doivent analyser l'environnement. Il y a plein de choses à faire normalement dans l'urgence et immédiatement. Ils doivent faire des exploitations de vidéosurveillance où il a pu passer. Donc, tout ça, après, je sais pas si ça a été fait, mais s'il n'y a pas les moyens...
Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait.
Ouais.
Il s'est absolument rien passé.
Faïsa, t'entends ?
J'ai eu le commandant de police qui était en charge de cette affaire-là. Je lui ai dit, je viens vous apporter les croissants tous les matins au commissariat. Je vous aide à retrouver mon papa.
Ouais.
Tu vois, parce qu'arrive un moment, il y a une intelligence de la rue qui se développe. À savoir, c'est qu'on commence à connaître les codes dans la rue, les codes chez les SDF. Il y a tout un monde. C'est pour ça que, comme je disais dans la vidéo, qu'il y avait un monde. C'est que vraiment, il y a un monde. Il y a les associations aussi qui sont dans la rue, qui font un travail formidable, et c'est une remontée d'informations incroyable. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui en France, on prend pas ça en compte. On doit le prendre en compte, mais peut-être que quand des politiques s'en mêlent. Tant que les politiques ne s'en mêlent pas, passez-moi l'expression, autant pisser dans un avion, quoi. C'est aussi simple que ça.
Et vous avez toujours le même référent au niveau de la police, ou ça a changé depuis
La petite histoire, c'est que moi, il y a eu des ratés dans cette affaire, et j'ai demandé à une amie à moi qui est commandant de police d'écrire à sa collègue commandant de police, de lui expliquer qu'il y a eu des ratés et ça serait bien qu'on relève les manches et qu'on s'y mette correctement. Ça fait 3 ans que j'attends une réponse de ce mail là Ce commandant de police n'a jamais répondu. Voulez-vous qu'arrive un moment on puisse avancer?
Faïsa, t'écoutes cette histoire, qu'est-ce que ça t'évoque là?
Ben moi, je connaissais l'histoire avant de connaître Hicham, avant même d'arriver dans l'équipe de tes chroniqueurs, Christophe, parce que je l'avais vue, elle avait été partagée des milliers de fois sur Facebook, et j'avais été très touchée par cette affaire, parce qu'en fait, quand tu lis ce qui arrive à Hicham et sa famille, en fait, tu peux te projeter et tu sais que ce type de tragédie, elle peut arriver à n'importe qui, d'avoir un parent malade qui demain sort et ne revient pas, ça peut tous nous arriver. Et malheureusement, l'inertie, l'inaction des autorités, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Je disais tout à l'heure, on est quand même en France, quoi. Je veux dire, si en France, on n'est pas capable de retrouver quelqu'un qui a disparu, en tout cas de mettre en œuvre tous les dispositifs qui existent, parce qu'on sait aujourd'hui, quand il y a des alertes enlèvement, notamment sur des mineurs, on arrive relativement rapidement à retrouver les gens. Pourquoi est-ce que quand il n'y a pas ce type d'alerte, on ne les retrouve pas? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que dans le cas du papa d'Hicham, on a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait? Est-ce qu'on a tout fait? Je crois pas.
Hicham nous dit non, hein. On n'a pas tout fait.
Ouais, clairement, moi, dans ma condition, moi, pour moi, rien n'a... Enfin, c'est méchant aujourd'hui ce que je veux dire. Je veux pas mettre la police ou j'ai à dos, mais pour moi, j'ai l'impression que rien n'a été fait. Alors, la chance que j'ai, et c'est vrai que je le répète assez souvent, c'est que moi, à la base, je suis issu des médias, donc j'ai pu avoir facilement accès aux médias. J'ai énormément d'amis à moi qui sont soit gendarmes, soit policiers, donc ça m'a énormément aidé. Mais je me suis dit, tout simplement, si quelqu'un est dans ma situation, quelqu'un qui n'a pas justement ce réseau-là, entre guillemets, mais comment il fait?
Bah déjà, ce réseau, t'as malheureusement pas permis de retrouver ton papa, donc je veux dire, ça suffit même pas, en fait.
Non, faut dire ce qu'il y a, c'est une situation qui est qui est pour moi mais illogique. Voilà, c'est vrai comme le dit Sylvain.
Mais je dirais même scandaleuse, moi je dirais.
Il y a un système pour les enfants et heureusement qu'il est là. Maintenant, pour des personnes disparues, je sais pas, vous vous rendez compte que chaque année, c'est à peu près 10 000 personnes qu'on ne retrouve pas. Donc 10 000 personnes, il y aura 10 000 familles.
On est même sur 11 000 l'année dernière.
Qui restent dans le néant, tout simplement. Mmh. C'est impossible déjà pour commencer. Et malheureusement, par exemple, moi, j'ai énormément de gens qui me partagent leurs histoires. Il y a des familles qui ont retrouvé leurs disparus, qui étaient déjà morts et enterrés depuis des mois. On est en France.
Hicham, ce que tu veux et ta famille souhaitent, c'est évidemment savoir. De connaître la vérité parce que il y a peut-être un deuil à faire, peut-être qu'il est encore vivant, peut-être qu'il ne l'est plus, on ne sait pas, mais en tout cas vous avez besoin et c'est normal pour faire votre deuil de savoir, parce que tu es effectivement là à parler à la radio, mais il y a aussi des frères et sœurs à tes côtés, il y a des petits enfants et voilà, tout ça évidemment c'est une histoire qui laisse un goût amer parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Est-ce que d'ailleurs il t'arrive d'imaginer un petit peu ce qu'il pourrait faire ou ce qui aurait pu arriver, Hicham?
Oui. Bah après tu imagines tout le temps, hein. Les scénarios, moi c'est pas un problème dans ma tête. Et malheureusement, bah la première chose à laquelle on pense et on espère, c'est qu'il a été recueilli par une famille. Ça arrivait, il y a des histoires incroyables, mais ça arrive.
Ouais.
Aussi pris dans une institution, serait aussi possible par une association. Vous savez, vous avez les Emmaüs, il y a énormément d'associations et d'organisations qui recueillent aussi les gens. Et aujourd'hui, c'est compliqué puisque voilà, on essaie quand même de retrouver les familles s'il y en a. Mm. Après, il y a aussi une grosse association, c'est un travail énorme à faire, mais ça s'appelle les Morts de la Rue, si je ne me trompe pas, qui recense chaque année les gens qui sont morts dans la rue sans papier.
Ouais.
Donc ils s'amusent, ils se prennent la tête plutôt à mettre la description, mettre le surnom de la personne, et avoir un maximum d'informations. Donc imagine-toi un petit peu, moi j'ai essayé, je l'ai fait pendant un temps, de lire un petit peu tous ces rapports, quoi. Il y a quand même énormément de noms, et puis là, t'as un journal, la rubrique, décès, quoi, de n'importe quel journal, mais sauf que t'as au moins 500, t'as 600 noms.
Ça s'appelle le collectif Les Morts de la Rue.
Collectif Les Morts de la Rue. Hicham, dernière question. Quand on a mis la vidéo sur les réseaux ce matin, des auditrices et auditeurs te demandaient comment peut-on faire pour vous aider.
Alors, pour m'aider, c'est simple. Il y a plusieurs manières en fait. La première, ça serait ce que je dis dans la vidéo, c'est que quand les réseaux sociaux bougent, en fait, tout le monde bouge.
Ouais.
Donc, ça serait de partager, en fait, la page, partager la vie de recherche. Il y a absolument toutes les informations sur la page Facebook de recherche de mon papa. Par la suite, ça serait d'en parler autour de vous. Et ensuite, après, c'est s'amuser un petit peu à faire, que font les hackers. Ça serait de mitrailler les sites gouvernementaux, parce qu'arrive un moment, je sais pas ce qu'il faut faire. En toute honnêteté, je sais pas. Sauf si quelqu'un a le numéro personnel de Macron, je serais heureux de le rencontrer.
C'est beaucoup le procureur aussi. Hein.
Je serais avec un grand plaisir quelqu'un qui irait tailler le bout de gras à ce sujet-là avec cette personne, tout simplement.
Oui, Besma.
Je disais que là, c'est beaucoup le procureur de la République qu'il faut auprès de qui faut mettre la pression, parce que c'est lui qui peut motiver ses équipes. Tant que le procureur en fera pas une priorité et qu'il décidera pas que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour essayer en tout cas de le retrouver. Je pense que c'est bien de partager et d'en parler, mais les enquêteurs se bougeront pas tant qu'ils auront pas la pression du procureur.
Mmh. Ça fait quand même 4 ans.
Malheureusement, de ce moment aussi, c'est que tant qu'il y aura pas les moyens, clairement.
Mais les moyens, tu sais, j'ai envie de dire qu'en réalité, en France, et c'est ce que je dis souvent, et je me fais souvent engueuler quand je dis ça, on a de très belles lois, on a de très beaux dispositifs, et des moyens, on en a, c'est juste qu'on choisit les endroits où on les place. Que si on faisait en sorte que ce soit une priorité, on a les lois et on a les moyens. C'est juste que c'est pas une priorité.
Ouais, ouais. Mais là, par exemple, un truc qui est tout bête, mais là, il y a aussi, et c'est bête à dire, mais comment te dire? Le dispositif que j'ai voulu, j'avais fait une pétition pour la remise en place de la RIF. Mmh. Moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on m'a expliqué concrètement que c'était impossible à remettre. tu vois. Donc ça sous-entend que il y a des choses qui sont possibles, mais aujourd'hui on a laissé quelque chose et c'est aménageable, tu vois.
Mmh. Donc, oui, parce que c'est pas une priorité.
Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose, c'est qu'on va aménager un dispositif qui est plus ou moins existant, de manière à aider les personnes qui se retrouvent dans cette situation à avoir des moyens. Mais on n'est jamais clairement dans un quelque chose de très simple. Oui, on va vous aider. Oui, on va faire les choses. C'est toujours alambiqué et c'est juste fatigant, en fait.
Bon, la page Facebook pour ton papa Hicham, c'est quoi?
Des recherches El Mekki Terrak.
El Mekki Terrak.
Voilà, sur Facebook et uniquement sur Facebook. Et donc encore une fois, 34 000 fois merci, parce qu'on est 34 000. Et c'est une page qui est très réactive. Et merci pour tous les coups de main que j'ai pu avoir depuis 4 ans. Il y a des gens qui ont fait des choses formidables, des choses qui ont fait des choses incroyables. Mais malheureusement, voilà, ça ne servira pas qu'à moi. En fin de compte, je me dis que si ça peut arriver, si ça m'arrive à moi, ça arrivera. J'espère. En fin de compte, aider dans cette galère, bien sûr.
Bon courage, Hicham. En tout cas, bon courage à toi.
Comment s'appelle la page exactement?
Recherche El Mekki Terrak. Comment te dis, Hicham?
Recherche El Mekki Terrak.
El Mekki Terrak. El Mekki Terrak. Voilà. Merci, Hicham.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir et bon courage. Mais c'est vrai que cette histoire quand même est hallucinante quand même. 4 ans sans qu'on puisse retrouver ce monsieur quand même qui a Alzheimer, et donc par conséquent, on sait ce que c'est Alzheimer. On en a malheureusement quasiment tous autour de nous, parce que c'est une maladie qui se développe de plus en plus. C'est une maladie terrible, parce que c'est un monsieur qui s'est perdu visiblement et qui n'a pas su retrouver son domicile. Ça peut être parfois des bouffées délirantes. Et ce monsieur, quand même, 4 ans après, le 17 juillet 2019, donc 4 ans après, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Hicham nous disait, voilà, on est capable quand même de retrouver le mec armé, ceci, cela, enfin, dans le pays, etc. Pourquoi on ne met pas le dispositif pour quelqu'un qui est âgé? On se dit, bah finalement, c'est pas une priorité, il est âgé, il est malade, donc voilà, on n'en fait pas une priorité. C'est un peu ça, quoi, non?
Bah c'est un peu ça, surtout que qui dit en faire une priorité, dit utiliser de l'argent, et l'argent, on n'a pas spécialement envie de l'utiliser pour ça. Et c'est là le problème.
Bon, alors, on va faire quelques petites infos zappées, si vous voulez bien, avec Faiza Ben Mohamed, avec Besma Maghrebi, Maître Maghrebi, ici présente. Alors, le chauffard qui a tué une femme, alors les médias ont dit, et continuent de dire d'ailleurs, pendant des célébrations de supporters de l'équipe d'Algérie, roulait une vitesse manifestement excessive, a déclaré le procureur de la ville. Il a aussi confirmé d'ailleurs que le jeune homme assure ne pas être lui-même un supporter des Fennecs. Le magistrat a requis donc son placement en détention provisoire, mais il n'a pas été suivi par la juge d'instruction Besma, qui l'a libéré après qu'il ait été mis en examen, a annoncé son avocat au Midi Libre. C'est ce qu'on a appris en tout cas. Cette enquête doit se faire dans la sérénité. Ça ne peut pas se faire tant que les médias sont à l'affût. Pour les deux familles, il faut que les médias prennent du recul. Il faut laisser les policiers travailler dans des conditions décentes, a demandé son avocat. Le jeune homme de 21 ans, de nationalité française, électricien de profession, étant détenteur du permis de conduire depuis seulement 4 mois, a nié être un supporter donc de l'équipe d'Algérie, dont les fans fêtaient alors la qualification pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent donc de l'Euro de foot ici. Selon ses déclarations, ils se rendaient chez une amie et ne s'intéressent pas au football. Le procureur a souligné que des éléments sont en contradiction avec ses déclarations. Selon une source proche du dossier, le jeune homme aurait bien regardé le match, comme le confirmerait des SMS échangés avec sa petite amie. Des témoins ont rapporté que le véhicule avec ses feux de détresse allumés et avait donc klaxonné comme les conducteurs qui veulent exprimer leur yes. Un individu s'est expliqué là-dessus en disant aux enquêteurs avoir seulement klaxonné car il venait de croiser une connaissance. Voilà un petit peu sur ce que l'on peut avoir suite aux déclarations du procureur. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair, Faiza?
Bah, écoute, on y voit beaucoup plus clair comparé à ce qui a été affirmé la première journée qu'a suivi ce drame, parce que dès le lendemain ou la soirée suivante, en tout cas, on savait déjà que les médias français avaient en tout cas menti sur un certain nombre d'éléments ou avaient affirmé des choses qui n'étaient pas correctes. C'est bien sûr, c'est toujours gênant pour nous de dire finalement c'est qu'un accident de la route, ou c'est qu'un, parce que ça reste quand même la mort d'une dame, c'est d'une mère de famille qui a carrément s'étrangler comme ça sur un trottoir, c'est quelque chose de vraiment tragique. Mais ça nous montre encore une fois la puissance des réseaux sociaux, les fake news qui se répandent à une vitesse grand V pour nous raconter n'importe quoi sans aucune vérification. C'est quand même quelque chose de dramatique, sincèrement, qu'on ait pu accuser comme ça sans vraiment savoir. Après, le jeune homme, évidemment, il répondra de ce qui lui est reproché. Si c'est un accident, c'est un accident. Si c'est quelque chose qui a été provoqué par un comportement imprudent, et ben il sera sanctionné pour ce comportement imprudent. Mais encore une fois, il y a eu un tel emballement
médiatique.
Parce que médiatique et politique. Je veux dire, même Christophe Castaner s'est exprimé sur le sujet en disant j'ai une pensée pour le bébé. Je crois pas que Christophe Castaner s'exprime pour tous les accidents de la route, aussi dramatique soit-il. Après, sincèrement, ça nous apprend à raison garder.
Besma, dans cette affaire, le jeune homme est en liberté. Hein.
Oui, et moi j'ai envie de dire que pour une fois, je suis assez satisfaite que la justice n'ait pas suivi les médias. Parce que en réalité, le fait qu'ils le laissent dehors, ils ont juste suivi les règles logiques, dans le sens où lorsque le juge d'instruction est saisi et qu'il décide de placer en examen une personne, il faut savoir que la détention provisoire n'est pas une obligation et qu'au contraire, elle est censée être l'exception.
Ouais.
On place en détention provisoire lorsqu'on considère que la personne est vraiment une menace, un danger, qu'on a besoin de rechercher des preuves. Bref, il y a des conditions.
D'accord.
Mais la règle, c'est rester en liberté dès lors qu'elle présente ce qu'on appelle des garanties. Donc là, ils ont vraiment suivi le processus classique, c'est-à-dire que il est placé, il est mis en examen, il est renvoyé devant le juge des libertés et de la détention. Devant le juge des libertés et de la détention, on examine s'il a des garanties ou pas, et si on considère qu'il n'a pas de garantie, il y a le mandat de dépôt qui est prononcé. Là, en l'occurrence, il devait avoir des garanties, il a été sans doute placé sous contrôle, il est placé sous contrôle judiciaire de toute façon. Donc là, moi, je suis plutôt satisfaite.
Il est mis en examen.
En fait, c'est deux choses différentes. Tu es mis en examen, et une fois que tu es mis en examen, on décide, est-ce que il y a une détention provisoire ou pas? Est-ce qu'on va prononcer un mandat de dépôt? Est-ce que tu pars en prison ou tu pars pas en prison? La règle, et ça c'est la base, c'est que tu ne pars pas en prison dès lors que tu présentes des garanties. La détention provisoire, c'est censé être quelque chose d'exceptionnel. C'est pas la règle.
Ouais.
Et c'est ce que le juge des libertés de la détention doit examiner. Et c'est aussi pour ça que c'est pas le juge d'instruction qui décide du placement en détention provisoire. Lui, il le propose. Et qui décide de la détention? C'est le juge des libertés de la détention.
Ouais,
qui, lui, s'il considère qu'il y a des éléments suffisants pour laisser en liberté, il laisse en liberté.
C'est pas les grosses têtes, mais pourtant ça y ressemble. Ça nous vient de la porte-parole du gouvernement. Suite à la démission de François de Rugy ce mardi, elle s'est exprimée dans plusieurs médias. Sur CNews, la porte-parole du gouvernement a notamment déclaré « Nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas de homard tous les jours. Bien souvent, c'est plutôt des kebabs. » Cette phrase a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. On a notamment pu lire, même le Gorafi n'aurait pas osé ce genre de sortie. Ou encore, normalement, un porte-parole non masculin s'est payé pour dire des choses sensées, non. Parce que là, on est très très loin du compte. Ça devient désolant. Voilà ce qu'on a pu, entre autres, lire. Voilà pour cette porte-parole donc qui s'est illustrée avec cette petite sortie. Apparemment, on mange pas forcément du homard, mais des kebabs. En même temps, elle a rien dit d'extraordinaire. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui mangent des kebabs que des homards dans ce pays.
Elle a rien dit d'extraordinaire, mais Sibeth Ndiaye, depuis qu'elle est porte-parole du gouvernement, il faut quand même bien regarder toutes les polémiques qui émanent de soi. L'extrême droite, soit même la gauche, hein, une partie de la classe politique en tout cas, qui s'en donne à cœur joie dès qu'elle parle, de se moquer de ses cheveux, de se moquer de sa tenue vestimentaire, parce que ce matin encore on avait des photos d'elle le jour du 14 juillet pour le défilé officiel qui la montrait, bon, avec un t-shirt un peu moulant, machin, et t'as des commentateurs politiques ou médiatiques et qui viennent nous expliquer que voilà, c'est la honte de la République d'avoir une femme comme ça, qui met des vêtements moulants avec du gras qui dépasse, que c'est pas correct, que si, que ça. Donc il y a un moment donné, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que cette dame, on lui passe rien parce qu'elle est noire et parce qu'elle elle déconstruit les codes et elle n'est pas dans le prototype, je dirais, de ce que se fait le français lambda, de ce que doit être une porte-parole de gouvernement. Aujourd'hui, avoir une femme noire, un peu ronde, qui s'assume avec des cheveux crépus, qui sort à la télé, qui s'habille comme elle veut, qui s'habille tout en couleur et qui donne une image complètement libre et peut-être en décalé de ce qu'on a l'habitude de voir, eh ben ça dérange. Du coup, cette dame, là aujourd'hui, une polémique sur le kebab, ça devient un scandale,
ouais,
d'État, comme si il y avait personne qui l'avait dit avant. Non, mais franchement,
c'est abusé, hein. Besma, franchement, on mange plus de caviar que de homard dans ce pays quand même.
Bah écoute, là tu sais, elle a eu le malheur d'emprunter un terme à l'arabe, donc enfin tu vois, kebab c'est un mot arabe, donc ça dérange. Moi je suis pas, oui ça me surprend même
alors
pas.
Elle peut dire un grec alors.
Voilà, je pense qu'elle aurait dit un grec, ça serait peut-être mieux passé, mais là emprunter à l'arabe kebab, tu comprends,
on aime bien parler polémique avec
ça ici. Choque hein, mais ouais. On devrait aller regarder l'étymologie d'Omar, tiens.
Ouais, on va y aller. Alors, autre information très intéressante, je rappelle d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal-Algérie sera visible en clair sur TMC, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le groupe TF1, le diffuseur principal BIN, qui a sous-licencié cette rencontre à son initiative. BIN Sport sous-licencie donc la finale au groupe TF1 afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette rencontre choc entre le Sénégal et l'Algérie, a indiqué BIN Sport. Le groupe TF1 a précisé sur Twitter que cette finale, dont le coup d'envoi sera sifflé vendredi à 21h au Caire, sera diffusée sur TMC, une de ses chaînes sur la TNT. Donc ça c'est bien quand même hein, que la plupart du grand public puisse voir évidemment la finale, et on imagine évidemment qu'il y a comme un parfum d'audience qui laisse se présager.
J'aimerais bien connaître le prix de la seconde de la publicité à ce moment-là.
Oui, ça doit être pas mal. Petite affaire encore. Ah oui, un automobiliste a été condamné à des amendes et une suspension de permis pour avoir agressé un aveugle et son frère avec qui il avait refusé la priorité à un passage piéton à Paris. C'était en juin dernier, vous en souvenez. Le tribunal correctionnel a condamné cet Espagnol de 68 ans, retraité du bâtiment, à 2000 euros d'amende, dont 1000 avec sursis et 18 mois de suspension de permis pour avoir menacé de piéton, notamment violence volontaire sur personne vulnérable, voilà comment ça s'appelle, ayant entraîné une incapacité totale de 4 jours. Il a également condamné à 2 amendes de 750 euros pour violence sans ITT. Là c'est sur le frère jumeau bien entendu de l'aveugle qu'il avait giflé, et de 250 euros également pour le refus de priorité. Il devra verser 1800 euros de dommages et intérêts à l'aveugle, 1500 à son frère et 1000 euros à chacun des titres des frais de justice. L'affaire avait trouvé un écho médiatique face à une vidéo évidemment relayée sur les réseaux sociaux, filmée par un policier en civil qui roulait à vélo avec une caméra GoPro allumée. Franchement la sanction elle est pas sévère quand même.
Moi, je la trouve normale, la sanction.
Ah bon?
Oui, je la trouve normale. Enfin, je te dis ça, je la trouve normale. Après, je sais pas si on est face à un primo délinquant ou pas. Si on est face à une personne qui a jamais eu de problème avec la justice, 2000 euros d'amende.
France Maghreb 2. On tente de me corrompre, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est le grand forum pour les dernières minutes avec le fameux quiz du LGF auquel tous les chroniqueuses et chroniqueurs se prêtent, bien entendu, et sans exception aucune. Faiza Ben Mohamed, qui est à Nice, Besma Maghrebi, ici présente dans les studios. Alors le principe, évidemment, c'est pas de se ridiculiser, mais d'apprendre et d'essayer de répondre aux questions. Hein, on essaye. Première question. On est, évidemment, parce que toutes mes questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet. On est en 1955. Le premier parc Disney, le seul conçu d'ailleurs et vu par Walt Disney, a ouvert ses portes. Je vous demande dans quel endroit de la planète ce parc a ouvert ses portes pour la première fois. C'était donc le 17 juillet 1955. À quel endroit, d'après vous, ce parc a-t-il été ouvert?
Mais ça, c'est nul.
C'est nul.
C'est en Californie. C'est nul.
Bah alors, comment ça, c'est nul?
C'est trop facile.
Mais je vous ai dit que c'était facile. Californie, bonne réponse, Besma, bravo.
Disney.
Bah oui, en même temps, c'est ton truc, c'est ça. Quelle Française devient présidente du Parlement européen en 1979? Est-ce que vous avez une petite idée? C'est une femme qui a été connue notamment. Je donne un indice.
Simone Veil.
Bravo Faiza. Un partout. Hein, pour deux personnes qui voulaient pas jouer. Hein.
Moi je joue plus. Ça y est, j'exerce mon droit au silence à partir de maintenant.
En quelle année a été créée la Cour pénale internationale, la CPI à Rome? En quelle année?
Ah non mais ça c'est pas cool.
Bah oui non mais d'accord, mais je donne un indice. Que quand même, je vous aide, je vous aime bien. C'était une année où...
En 1998,
c'est une bonne réponse. Elle a googlisé, c'est sûr.
Le 17 juillet 1998 à Rome en Italie.
Elle a googlisé,
c'est sûr. Et c'est rentré en vigueur le 1er juillet 2002. T'as juste été plus rapide que moi.
2-1 pour Faiza. Je cherche. Alors tiens ça. Alors ça, si vous trouvez pas ça.
Mon Google, il rame là.
Si, ouais, c'est ça, Zarma. Si vous trouvez pas ça, alors là, franchement, je cherche un acteur américain né le 17 juillet 1952. Indice K2000 et alerte à Malibu.
Ah, mais comment il s'appelle?
David Hasselhoff.
Ouais, David Hasselhoff. Ouais. Bravo, Faiza. Dernière question. Je cherche une femme d'État allemande née en 1955, évidemment, un 17 juillet. De quelle femme s'agit-il?
Angela Merkel.
Angela Merkel. Bravo, Faiza.
Je t'applaudis.
Bravo, bravo. Faiza.
C'est la seule politique allemande que je connaissais.
Elle a quelques soucis de santé d'ailleurs en ce moment, Angela Merkel. Je sais pas ce qui se passe. Elle est prise de crise de tremblement.
De tremblement, ouais. Ouais.
Bon, bah, c'est bien, dites donc, Faiza, là. Eh! Ton Google, il marche super bien. T'as la fibre à Nice ou dis-moi?
Oh là, j'ai la fibre, ça fait pas longtemps en plus à la maison.
Ah ouais, bah dis donc, ça marche de ouf, hein. On a vu ça, bien entendu. Bon, eh ben écoutez, on souhaite évidemment pour dimanche un match, pour vendredi, pardon. Vendredi, un match calme. Que tout le monde, évidemment, fête dignement si tant est qu'il y a fête, parce que l'Algérie peut aussi perdre quand même. Faut pas écarter cette hypothèse. Parce qu'il y a les Sénégalais en face, c'est vendredi soir, donc à 21h. Je rappelle que le match sera diffusé en intégralité aussi chez nous, hein, sur France Maghreb 2, grâce à, avec nos partenaires d'RFI. Et à la télé, à l'image, donc sur la télé, c'est gratos, c'est sur TMC, sur la 10e chaîne de la TNT. Donc ce vendredi. Et si victoire il y a, si le fait de ramener la coupe à la maison, ce qu'on espère, eh bien que ça se fasse dans la dignité, dans la tranquillité et dans le respect, évidemment. Et c'est vrai que moi j'ai pu voir des scènes désolantes, ma chère Besma, ma chère Faiza. C'est effectivement ces gars qui sont tellement heureux, tellement expressifs, qui sont à monter sur les toits des bagnoles en roulant, c'est extrêmement dangereux.
Et, j'ai envie de te dire, ils le font même pendant les mariages, hein.
Ah oui,
oui, c'est pas propre aux Algériens.
C'est pas propre aux Algériens et c'est pas propre au match de foot.
Pendant le mariage, mais pourquoi tu te mets sur un toit de voiture?
Mais tu les as pas vus pendant les célébrations, quand ils font les cortèges.
Oui.
C'est les drapeaux, ils sont sur les toits, ils ont les fenêtres ouvertes. Enfin, c'est juste, c'est pire que que lors d'une victoire de l'Algérie. Hein.
Ah oui, d'accord.
Bon. Ah bah oui.
Ça m'avait échappé, mais bon, on n'aura pas tout vu, hein, finalement. Mais en tout cas, bon.
Comme quoi, tu vois, faut pas tout mettre sur le dos des Algériens.
Bah oui, évidemment. Et c'est pas le propos ici, tu le sais très bien.
Bien évidemment.
Tahia Jazel, bien entendu. Bon, ma chère Faiza, bonne semaine, bonne finale, et ramène-nous la coupe à la maison, hein.
Oui, merci, bonne soirée à tous.
Merci Faiza, merci Maître Maghrebi.
Merci à toi Christophe.
Et à très très vite, évidemment.
À demain, très très vite.
Demain, autre casting, il y aura Sabrina Sebaï, Céline Bory et Gamal Abina entre 16h et 18h. Merci d'écouter France Maghreb 2. Et vous avez d'ailleurs bien raison, il est 18h. Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, bonsoir.
Bonsoir à tous. La sécheresse touche maintenant 64 départements français, dont 21 sont en état de crise avec des restrictions d'eau. Et ça ne devrait pas s'arranger. Météo France annonce un nouvel épisode de canicule à partir de la semaine prochaine. Il fera chaud dès la fin du week-end, puis très chaud à partir de lundi, jusqu'à 40 degrés localement sur une grande moitié sud du pays. Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi énergie et climat qui décrète notamment l'urgence écologique et climatique et qui définit les objectifs de la politique énergétique du pays. Et plus tôt dans l'après-midi, l'exécutif a défendu le choix d'Elisabeth Borne au ministère de l'écologie. Elle a succédé en début d'après-midi à François de Rugy après sa démission hier. Son parcours montre son attachement au sujet de la transition écologique, a assuré la porte-parole du gouvernement. Vous ne verrez bientôt plus sa devanture en Vichy, rose et blanc. 13 magasins Tati vont fermer et la centaine d'autres va passer sous pavillon Jiffy. Seul le magasin historique du boulevard Barbès à Paris devrait perdurer. Il y a 189 postes qui vont être supprimés et un appel à la grève est lancé. Le baron de la drogue El Chapo devrait finir sa vie en prison. Il vient d'être condamné à la perpétuité par un juge de New York. Lors de son procès en février, le narcotrafiquant mexicain avait été reconnu coupable d'avoir fait entrer aux États-Unis des tonnes de cocaïne, d'héroïne et de marijuana. Il a annoncé qu'il voulait faire appel de cette condamnation. C'est l'Australien Caleb Ewan qui remporte la 11e étape du Tour de France au sprint à Toulouse. Et le Français Julien Alaphilippe reste en jaune. Et puis les puristes du dessin animé se cachent peut-être les yeux. Le nouveau Roi Lion sort aujourd'hui au cinéma. C'est exactement la même histoire qui débute par la naissance de Simba, sauf que tout est fait en images de synthèse. Des singes, des lions, des hyènes ou des phacochères plus vrais que nature grâce à la 3D. Le tout pour un budget de 250 millions de dollars.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.